Merci, merci. J'espère que vous avez écouté les annonces et que vous avez lu le psaume 79. Sinon, il faudra une demi-heure de plus de culte. C'est une belle introduction pour la mise en pratique. Juste une très bonne mise en pratique d'écouter les annonces et de faire ce que je dis, ce que Dieu dit. Et la parole de Dieu, justement, c'est pas que venir au culte, écouter, repartir, et puis c'est terminé. Il faut mettre en pratique. Et Jacques, voilà ce qu'il nous dit, chapitre 1, versets 2 à 25. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va. Il oublie aussitôt qui il était et quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, 22, 25. Je vous invite à la prière. Père éternel, que nous puissions avoir le cœur ouvert, les oreilles ouvertes pour t'écouter, mais aussi pour mettre en pratique. Nous avons chanté ce chant, j'écouterai ce que dit Dieu. Pas seulement, nous ne voulons pas seulement t'écouter, mais nous voulons nous mettre en route, avancer, marcher avec toi. Et qu'à toi revienne toute cette gloire, parce que nous n'avons aucun mérite. Tu as été jusqu'au bout pour nous sauver, même si nous n'avons aucun mérite, mais quelle joie de t'appartenir. Nous voulons être heureux en toi, Seigneur. Encore une fois, aide-nous à avoir un cœur pur. Renouvelle nos forces, renouvelle notre cœur, renouvelle nos pensées. Au nom de Jésus. Amen. La nouvelle version en français courant de ce verset de Jacques 22 dit « Mettez en pratique la parole de Dieu ». La première version dit « Mettez en pratique la parole ». Mais ici, il insiste sur la parole de Dieu. C'est évident que ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas celle de Daniel, ce n'est pas celle d'aucun orateur qu'on doit suivre, mais la parole de Dieu. Et selon Jacques, ne pas être un auditeur oublieux, c'est plonger ce regard dans la loi parfaite, la loi de liberté, et persévérer. Parfois, on lit et puis après, on... Ça nous conduira à ce qu'il dit. Vous serez heureux dans vos activités. Et le psaume 119, parce que c'est quand même là qu'on y arrive, le psaume 119, est un exercice excellent pour expérimenter ce que l'apôtre Jacques veut nous faire comprendre. Et le psalmiste est d'accord avec Jacques, enfin, plutôt le contraire. Le psalmiste a vécu bien avant Jacques, et il est sur les traces, mais il est sur la même longueur d'onde. Et voilà ce que nous dit le psaume 119, je vous rassure, on va pas tout lire, parce que je sais, je pense que vous l'avez lu, et si pas, ben je vous le dirai, c'est pas grave. Psaume 119, les trois premiers versets. Version seconde dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Et je vous lis la nouvelle version française courant « Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur, heureux ceux qui suivent les instructions et le cherchent de tout leur cœur, ceux-là ne commettent aucune injustice, mais vivent comme Dieu le demande. Heureux. Heureux ou bienheureux, ne sommes-nous vraiment? Et Jésus reprendra dans les béatitudes ce mot heureux. Heureux. Heureux les pauvres en esprit, heureux les démonaires, heureux ceux qui procurent la paix, heureux, 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 heureux. Ne sommes-nous vraiment? Est-ce qu'on parfois se retrouve dans cette énumération? Il faut avouer quand même que dans notre vie, on a tendance davantage à dire que je serai heureux quand ma maison sera payée, Mes enfants sont grands. Je serai heureux quand mon compte en banque sera positif. Ah, j'ai un nouveau matelas. Quel bonheur! Quel bonheur! Ou alors, un petit resto entre amis. C'est heureux. Un bon film à la télé, ou quelques jours de vacances, j'ai mis des petits points, etc. On est heureux. Mais est-ce que la lecture de la Bible nous rend heureux, joyeux? Dans ce psaume 119, quelle attitude est-ce que nous avons? Ouh, c'est trop long! Oh là là! Vous avez la 117, hein? C'est facile, hein? Je n'aime pas lire, j'ai du mal à comprendre, je n'ai pas assez de temps. Je préfère le psaume 23, hein? Beaucoup plus simple à comprendre. Pourtant, c'est quand même qu'une demi-heure. Enfin, moi, je lis en une demi-heure, peut-être des plus rapides, peut-être des plus lents. Pour ma part, c'est une demi-heure. Et c'est quand même ce qui est conseillé, de marcher par jour une demi-heure. Je l'ai déjà dit. Alors, spirituellement, une demi-heure avec la parole de Dieu, c'est peut-être pas trop quand même, hein, c'est pas exagéré. Il est vrai quand même que le psaume 119 est très long. Il est long, est très long. C'est le plus long de tout. Ce n'est pas que ça, ce psaume. Ce psaume, c'est une œuvre d'art, de littérature. Une cathédrale de l'écriture. J'essaie d'employer des mots un petit peu pompeux, comme ça, parce que c'est tellement beau. Une peinture aux mille nuances. Un homme non inspiré n'aurait pas pu écrire ce chef-d'œuvre, tout seul. Ou alors, on a passé du temps. C'est un chef-d'œuvre. Je m'explique. Il est composé de 22 paragraphes. Il ne faut pas chercher en français, malheureusement, ça ne transpire pas. Mais je vous le dis, il est composé de 22 paragraphes, comprenant chacun 8 versets. Comptez quand même 8 fois 22, 176, il y a 176. Jusque-là, bon, on voit rien d'extraordinaire, sauf que ces paragraphes commencent chacun par la lettre de l'alphabet hébreu. Les 22 lettres de l'alphabet dans l'ordre. Et chaque verset de ce paragraphe débute par la lettre correspondante. Et petit exemple, les 8 premiers versets commencent par Aleph, la lettre A, les 8 suivants par la lettre Bet, B, etc., etc., jusqu'à la 22e lettre. Donc, ce qui fait 8 fois 22. L'auteur de ce psaume a voulu certainement exprimer qu'il fallait toutes, les ressources de la langue pour écrire sur la vie selon la loi de Dieu. Il fallait bien tous les mots, il fallait bien toutes les lettres pour vraiment comprendre et expliquer la loi de l'Éternel. Peut-être que le choix de l'ordre des lettres alphabétiques est sans doute aussi pour pouvoir mémoriser. Ils sortent de l'exil et ils ont mémorisé plusieurs versets. C'était quand même parfois plus facile pour l'enseignement, pour son propre enseignement et l'enseignement des enfants. Vous savez, les comptines un peu comme quand on change l'alphabet, hein, on a vu l'alphabet, la ligne, c'est comme ça qu'on retient plus facilement en chantant. Et on sait très bien qu'on retient vraiment tout ça avec un ordre bien établi, et ça en chantant. Et au cours de mes recherches, j'ai appris que ce psaume était encore chanté dans certaines églises suisses au catéchisme du dimanche il y a à peine 50 ans. Et on était en Suisse, on a peut-être appris le psaume 119 en chantant. Enfin, pour la petite histoire, un petit exemple, pour dire qu'il était quand même très long, c'est sur John qui rapporte que Georges Lussard, qui est né en 1513, et mort le 1er mars en 1546, fut un prédicateur protestant écossais, et il était problématique parce qu'il était protestant, il fallait l'éliminer, donc il a été condamné à l'échafaud. Et il fit appel à ce moment-là une coutume de l'époque, qui permettait à un condamné de chanter un psaume. Il n'a pas chanté le 117, hein. Il a chanté le 119. Et avant qu'il soit arrivé au tiers de son chant, un messager arriva et apporta la grâce de roi. Sa vie fut donc sauvée et il devint évêque d'Edador. Formidable quand même. Heureusement qu'il était là, hein, sur le 119. Il y a donc quand même quelque chose d'exceptionnel dans ce psaume. Les 3 premiers versets que nous avons lus nous introduisent sur la route. Et André Chouraki, il a fait une traduction de la Bible et il a traduit le début du psaume comme ceci, « En marche, heureux, en marche, les intègres de la route. » heureux ceux qui sont intègres. Ils vont dans la Torah de Yahvé de tout cœur et ils le cherchent. Ils le cherchent. La parole de Dieu, parce que c'est quand même le thème de tout ce psaume énorme, c'est le thème primordial et la source de l'intégrité pour aller sur la route de la vie. Si on n'est pas intègre vis-à-vis de Dieu, on a beaucoup de difficultés dans ce monde. Et pour ne pas s'arrêter à la moindre épreuve, il faut être armé, il faut avoir sa foi, il faut être en Dieu. Dieu nous veut en marche et heureux dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Et malgré la tempête, sa parole, comme nous dit le psaume 119, que vous avez lu, sa parole est un asile, un refuge. Verset 114. Une lampe, une lumière, verset 105. Elle est la vérité. 160. Vous en écrirez d'autres. Et quand on lit ce psaume en entier, on a l'impression qu'il se répète sans cesse. Je pense que vous avez eu cette impression. Il répète. Il dit toujours la même chose. Effectivement, oui, il y a une répétition. Il y a une répétition de l'expression de la volonté de Dieu. La parole de Dieu en oui, synonyme. Chiffre 8, hein, 8 versets, 8 répétitions de la parole de Dieu. Et nous trouvons le mot Torah, qui représente la loi, non pas le légalisme des pharisiens, hein, la loi divine de Dieu. Nous trouvons le mot enseignement, qui indique que Dieu a fait connaître sa volonté par une communication personnelle, un peu comme si un père disait à son enfant, il a enseigné. Et puis il y a le mot « parole » qui est traduit par « davar » de l'hébreu, qui rejoint l'enseignement direct. Dieu a parlé en direct. Dieu parle directement. Il y a le mot « témoignage » qui parle du contenu. Dieu a témoigné de lui-même et de ses exigences. Il y a le mot « statut ». Le mot hébreu « bukin » a la même racine que « graver ». Graver les statuts, graver la parole. Vraiment se l'imprégner, comme des règles qui ne changent pas. Dieu ne change pas. On grave ces paroles dans notre cœur. Et puis il y a le mot jugement ou ordonnance qui nous dicte les décisions que Dieu a prises. Dieu doit parfois juger telle et telle chose. Il y a le mot précepte aussi, qui donne des directives. Précepte, c'est par une autorité, donner une directive par autorité. Et puis, en huitième, il y a le commandement. Un commandement qui demande obéissance. À l'armée, quand on vous dit c'est un ordre, à exécuter, évidemment. Tout ça résulte sur une route, une voie où Dieu veut nous conduire, une voie qui dirige nos vies, qui dirige nos pensées. Et l'un ou l'autre de ces mots, de ces huit mots, se retrouve dans chaque verset, sauf dans le 122 et le 132. Les trois premiers versets, comme on l'a dit, introduisent un des plus beaux écrits de toute la Bible, et les trois derniers clôturent, en résumant les pensées principales. Et je vous les lis, 174. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant, comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. L'auteur se voit ici comme il est. Après avoir écrit tout ça, il se voit comme il est, tel qu'il est. Il est dans le désarroi. Il est comme il est. Il est une brebis perdue. Mais il sait que Dieu va le conduire. Il sait et il fait de la parole de Dieu, ses délices. Il demande d'être soutenu par une décision immuable de l'Éternel. Et il se sent, comme je l'ai déjà dit, comme une brebis perdue, mais il sait que le Seigneur est le bon berger qui va le chercher. Et entre ces trois versets d'introduction et ces trois versets de conclusion, nous trouvons la plus longue prière, parce que ce psaume n'est pas seulement un texte comme ça écrit, c'est une prière. Elle est adressée à Dieu. Le psalmiste exprime de façon réfléchie toute sa méditation, développée, ingénieuse, passionnée de la loi de Dieu. Il est passionné. Il passe en revue certains états de l'être humain. Par exemple, la jeunesse. Verset 9. Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant après ta parole? Il parle de la mort. Verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Il parle de la peine. Verset 28. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Il parle de la calomnie. Je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Il n'écoute pas, il s'accommode. Non. Il se confie en ce que Dieu a dit. L'insomnie. Au milieu de la nuit, verset 62, je me lève pour te louer. Cela annonce lève et on mange un bisou au bon temps de café. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Il y a aussi l'humiliation, verset 107. Je suis humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. La persécution des princes me persécute sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Dans tout, il est soutenu par la parole de Dieu. Méditons ce psaume. C'est une mine d'or. Le psaume 119 comprend aussi un mot qui revient souvent. C'est le mot promesse. Selon ta promesse. Il est plus ou moins une vingtaine de fois dans ce psaume. Et si vous lisez tous les psaumes, vous le trouverez une fois seulement dans le psaume 130. Selon ta promesse est 20 fois dans le psaume 119. Verset 116, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Dieu n'est pas espoir. Souvenez la semaine dernière. Espoir, mais espérance. Ce psaume, c'est vraiment une dentelle. Une dentelle que son auteur humain a voulu aussi parfaite que la parole de Dieu l'est. La parole de Dieu est parfaite, mais elle a été écrite par des humains. Or, nous avons déjà parlé du nombre 8. Le nombre 8 que comprenait chaque strophe, commençant par la lettre de l'alphabet hébraïque, mais un détail a peut-être poussé plus loin. En plus des huit noms donnés pour désigner la Bible, parole de Dieu, le nombre de mots s'élève à 1064, soit 133 fois 8. Et celui des lettres, en hébreu évidemment, 4464, soit 558 fois 8. Fort bien. Le nom de Yahvé est écrit 24 fois. 3 fois 8. Dieu 3 fois 5. 8 fois. Et le mot vivre 16 fois, 2 fois 8. 8 revient sans cesse. Pourquoi ? Sans entrer dans les détails, évidemment. Selon la tradition et la pensée juive, le chiffre 8 a une grande symbolique. Si 7 est le chiffre selon la création, Dieu a fait un 7 jour, et qu'est de l'ordre naturel, 8 est, c'est dépasser cet ordre naturel. C'est au-delà du naturel. C'est, pour le juif, la perfection. C'est l'équilibre. Au-delà du naturel. C'est au huitième jour, comme j'ai déjà dit une fois dans la prédication, qu'on pratique la circoncision qui symbolise la capacité à l'être humain à dépasser sa nature limitée en entrant dans l'alliance de Dieu. C'est aller au-delà de la nature. Pour une telle précision dans le psaume 119, pour moi, il est impossible qu'un homme y arrive tout seul s'il n'est pas inspiré. Si ce psaume n'est pas inspiré, il a dû en passer du temps à calculer. Il doit être connecté à Dieu. Dieu est au-delà du naturel, au-delà de la création, ce jour. Et pour terminer, bien qu'on pourrait en dire encore long, parce que hein, chaque verset, on pourrait en dire, il y a ce verset que l'on connaît par cœur, le 105. C'est par cœur, hein. Oui, dites, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me montre où je suis, elle m'indique mon état, elle est là, elle me montre moi. Elle est une lumière sur mon sentier. Elle me montre une direction. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si mon état et ma vie, comme l'a dit Daniel, ne sont pas des fleuves tranquilles, selon la promesse de Dieu, je peux être heureux et joyeux d'avancer. Et pour conclure, nous avons un peu le penchant de ce psaume qui est la perfection et qui montre l'équilibre de Dieu. Il y a l'humanité de l'auteur qui l'a écrit. Nous avons les deux parties, le divin et l'humain. Nous avons le penchant dans le Nouveau Testament. Si le psaume 119 est selon l'alphabet hébreu, Jésus est l'alpha et l'oméga. La totalité de l'alphabet grec. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, vous savez, l'Ancienne Alliance. Jésus est la perfection de la parole de Dieu dans la grâce de la Nouvelle Alliance. Qu'à lui revienne toute sa gloire. Que nous puissions aimer la lecture de la parole de Dieu, aimer toute cette parole autant que le psalmiste a aimé l'écrire avec joie et perfection. Pour son plus grand bonheur et notre plus grand bonheur. Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui a traversé le siècle, même si nous ne comprenons pas tout, même si on a l'impression qu'elle est trop longue, elle renouvelle et elle nous montre ta perfection. La perfection de ton être, la perfection de ta parole, la perfection de ce que tu as fait, de ce que tu es, la perfection de ton salut. Seigneur, nous puissions nous imprégner et être heureux, être joyeux de lire ce que tu nous as laissé, ta parole, selon ta promesse. Amen.